Mikis sepastil.
Mikis sepastil. Oh, mikis kis sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 19 février. Aujourd'hui, on va faire pas mal de brèves et de petits focus, notamment à l'international, mais quand même on va pas faire l'économie d'un petit retour sur les suites de l'affaire Quentin Derenc, ce militant d'ultra-droite qui est mort le 14 février. Et on parlera aussi du carnaval des gueux qui a eu lieu à Montpellier par exemple. Et puis des riches qui ne payent décidément pas d'impôts sur le revenu. Un petit tour donc de l'actu, notamment avec le réveil matin, une petite sélection de brèves de l'international proposée sur le site du Courrier International. On y apprend tout d'abord que le Pérou a un nouveau président. Il s'appelle José María Balcázar, parlementaire de gauche, mis en cause dans des affaires de corruption et critiqué pour ses propos sur le mariage des enfants. Eh bien, malgré tout cela, il a été élu président par intérim ce mercredi. Au Parlement, il a en effet obtenu 60 voix au second tour contre 46 pour la centriste Maria del Carmen Alva. Donc José María Balcázar, un avocat de 83 ans, vient remplacer José Jerry, qui a été destitué la veille dans un contexte d'instabilité politique et chronique. C'est ce que raconte le journal El Comercio. Il restera normalement à la tête du Pérou jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, qui se fera au mois de juillet. L'élection présidentielle aura lieu au mois d'avril. Je jure devant Dieu, la patrie et devant tous les Péruviens d'exercer fidèlement la fonction de président de la République que j'assume conformément à la Constitution jusqu'au 26 juillet de défendre la souveraineté nationale, l'intégrité physique et l'indépendance de ces institutions démocratiques. À Cuba, ça bouge aussi avec peut-être de l'ingérence états-unienne, à savoir par la personne de Marco Rubio. Serait-il en discussion secrète avec Cuba? C'est ce qu'affirme en tout cas Axios, hein, un média. Le secrétaire d'État américain, donc Marco Rubio, aurait échangé avec le petit-fils du dictateur vieillissant Raúl Castro. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 ans, donc le petit-fils, serait en effet vu par le diplomate américain comme l'incarnation d'une jeune génération pour qui le communisme révolutionnaire a échoué et qui voit un intérêt à se rapprocher des États-Unis. De son côté, le site CyberCuba signale lui que Vladimir Poutine a reçu à Moscou Bruno Rodriguez, le chancelier du régime cubain, pour lui réaffirmer son soutien. Le président russe a semblé critiquer les nouvelles sanctions imposées à l'île, affirmant que le Kremlin n'acceptait rien de ce genre. La Russie n'a pour autant pas annoncé publiquement une quelconque forme d'assistance à La Havane. En Italie, l'État a été condamné. Le tribunal de Palerme a en effet ordonné à l'État italien donc, d'indemniser l'ONG Sea-Watch à hauteur de 76 000 euros, et ce pour avoir bloqué au port l'un de ses navires qui partait secourir des migrants en mer. C'était en 2019. C'est dans le Corriere della Sera qu'on raconte cela. Giorgia Meloni a dénoncé une décision qui la laisse littéralement sans voix. La première ministre a en effet demandé si le travail des magistrats était de faire respecter la loi ou bien de récompenser ceux qui se vantent de ne pas respecter la loi, tout en prévenant que son gouvernement continuerait de faire tout ce qu'il faudrait pour défendre les frontières et la sécurité des citoyens.
Siamo tutti antifascisti.
Un fasciste de merde. Un fasciste de merde.
Siamo tutti antifascisti.
Allez, on y va dans le fascisme. À plein pot, on fait un petit retour donc sur l'affaire Quentin Derenc. On est à presque 6 jours maintenant suite à la mort de ce militant de 24 ans, c'était le samedi 14 février, suite des blessures qui avaient lieu lors d'une agression deux jours plus tôt à Lyon. À l'Assemblée nationale, déjà ce mardi après-midi, une minute de silence a été observée. Hein. Gérald Darmanin y a déclaré que la jeune garde tue, donc la jeune garde c'est un groupuscule antifasciste, et que la France insoumise devrait le condamner. Les insoumis, eux, de leur côté, dénoncent une récupération politique, avec la présidente du groupe, Mathilde Panot, qui dénonce notamment l'absence de dispositifs de sécurité qu'il n'y avait pas, autour de la conférence de Rima Hassan qui s'est tenue jeudi dernier à Lyon. Et c'est donc en marge de cette conférence, en amont même, que des affrontements ont eu lieu. Par rapport à cette minute de silence à l'Assemblée nationale, les collègues Horizon de sur tous les bancs se tenaient debout, mais cette députée, qui s'appelle Anne-Cécile Violent, elle, restait assise. Une forme d'expression qu'elle a justifiée auprès de France Info par l'indifférence de la représentation nationale à l'égard d'autres faits tragiques. Elle, pour sa part, voulait mettre l'accent notamment sur les femmes et enfants victimes de violences qui meurent, dit-elle, trop souvent dans une forme d'indifférence. Dans le même esprit, de gens qui ne se sont pas levés ou qui sont partis, le communiste Stéphane Peu a regretté pour sa part que cette minute de silence se soit limitée au seul cas de Quentin Derenck, donc. Pour ma part, a-t-il dit, et avec d'autres, nous avons souhaité que cette minute, qui sort un peu des jurisprudences de l'Assemblée, soit élargie à l'ensemble des personnes qui ont été victimes de violences politiques. Il rappelle que depuis 2022, il y a eu 12 morts, notamment liés à des actions de groupuscules d'extrême droite. Ces morts, eux, n'ont pas fait l'objet de ces minutes. Pour rappel, par exemple, Yael Braun-Pivet avait refusé au mois d'avril d'organiser ce type d'hommage pour Aboubacar Cissé, un Malien qui avait été tué de plusieurs coups de couteau dans une mosquée de la Grand Combe. Elle invoquait alors le refus des groupes Renaissance ou du RN, puis elle s'est appuyée sur une nouvelle règle en vigueur, à savoir pas de minute de silence relative à des cas particuliers. Visiblement, ça dépend de la particularité de ces cas. À l'époque, face au tollé, la présidente de l'Assemblée avait quand même finalement fait marche arrière et il y avait pu avoir cette minute de silence. Alors, si on revient sur cette agression de la semaine dernière à Lyon, le déroulé des faits est un petit peu en train de sortir grâce à de nouvelles images et surtout vient battre en brèche le récit qui a été, on va dire, martelé sur beaucoup de grands médias. Notamment un journaliste qui était présent au moment de l'attaque contre Quentin Derenck, un reporter du Progrès, journal sur place, a assisté à une rixe entre deux groupes d'individus, d'extrême droite donc d'un côté et d'extrême gauche de l'autre, effectivement en marge de cette conférence prévue de Rima Hassan. Il raconte « En arrivant à proximité, j'ai vu deux groupes qui se battaient, ils étaient en ligne, avec un groupe qui reculait, plutôt vers les quais, ils se battaient, il n'y avait pas d'armes, tous cagoulés, on ne pouvait reconnaître personne », raconte ce journaliste dans cette vidéo où il n'apparaît pas et où sa voix a été floutée parce qu'il souhaite garder l'anonymat. Au bout d'un moment, raconte-t-il, la bagarre a commencé à s'estomper peu à peu. On a vu qu'il restait 2-3 personnes au sol et elles se faisaient frapper. Une fois que les personnes qui frappaient la personne au sol ont commencé à partir, moi je suis arrivé avec une autre personne pour aller voir celle qui restait au sol. Le journaliste explique ensuite être parti de la scène avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Il n'y avait plus personne sur place dans la rue, aucune ambulance ni pompier n'était passé. Donc on pense que la personne est partie toute seule ou avec quelqu'un, conclut ce journaliste. Et c'est en effet ce qui semble être s'être passé. Hein. Suite à la bagarre, le jeune n'a pas été hospitalisé, c'est seulement il a eu un malaise dans les 48 heures qu'on suivit. Et c'est avec le traumatisme crânien qu'il a subi ensuite qu'il est malheureusement décédé. Donc il n'a pas été laissé pour mort sur le sol. Plusieurs vidéos qui viennent de sortir mettent donc à mal ce récit d'un guet-apens qui aurait été lâchement tendu par des militants d'extrême gauche. Ainsi, le Canard Enchaîné a proposé un nouvel éclairage en publiant une vidéo inédite de cette bagarre, partagée sur X, puis par un journaliste de Mediapart, et donc qui montre ce qui s'est passé avant le lynchage au sol de Quentin. Ces images mettent en effet à mal donc la version d'abord présentée par le groupuscule identitaire Nemesis, et cette version qui a ensuite été largement reprise par des responsables politiques et des militants, à savoir donc que le Quentin Derenck serait tombé dans un guet-apens tendu par l'extrême gauche. Le Canard Enchaîné, qui s'appuie aussi sur des informations et des témoignages, explique donc que tout a commencé par des jets de fumigène de la part d'un groupe d'individus masqués et cagoulés, donc les identitaires, en direction d'un groupe qui se rendait, lui, au meeting, eux habillés en ville normale, pas en train de partir à la bagarre à la base. Ce qu'on peut voir au début de la vidéo, donc, c'est que les militants d'extrême droite attendent cachés dans un coin de rue que leurs adversaires arrivent à leur hauteur. Ils sont environ donc une quinzaine de chaque côté. Les militants d'extrême droite sont cagoulés tout en noir. Certains ont des gants coqués, des casques de moto, même une béquille ou un parapluie. On aurait dit un ring de boxe géant. Ça courait dans tous les sens, explique le journaliste. Mais personne n'a demandé de l'aide. Hein. Ils étaient venus pour en découdre. Vient alors la scène du lynchage au sol de Quentin Desranques, celui-ci étant resté jusqu'au bout de la bagarre avec deux autres personnes de son groupe, alors que le reste de sa bande a fui. Et il est ensuite violemment tabassé donc à l'angle de la rue Camille Desmoulins, explique le Canard enchaîné. Il finit par repartir donc à pied, avec, épaulé par un de ses amis, avant de s'effondrer 1,5 km plus loin sur un quai. Appelé à l'aide, les secours le transportent alors à l'hôpital dans le coma, souffrant d'un grave traumatisme crânien. Il est finalement déclaré mort le samedi midi. Selon le procureur de Lyon, Thierry Dran, au moins 6 individus au total ont frappé donc, ce Quentin au sol. Alors, avant de continuer justement sur les interpellations qui ont eu lieu depuis, on revient aussi par rapport au curriculum de la victime, hein, qui a été largement instrumentalisé sur les réseaux sociaux, enfin sur les grands médias aussi. Ce garçon, en effet, était reconnu par un journaliste de Mediapart dans une manifestation néo-nazie en 2025, hein, la manifestation du comité du 9 mai, tambour hitlérien en tête. Un comité du 9 mai qui a été créé par des néofascistes, néo-nazis et antisémites, à savoir le GUD, la FNJ et les JNR, et ce pour commémorer la mort d'un autre de leurs militants, un jeune de 22 ans, jeune nationaliste, Sébastien Dizieux, tombé d'un immeuble en 1994, alors qu'il tentait d'échapper à la police au cours d'une manifestation interdite à Paris. Les deux personnes qui ont créé ce comité du 9 mai sont Marc Decacré-Valmenier et Serge Ayoub, dit aussi Batskin. Le premier, Marc Decacré, est proche de Bolloré. C'est notamment lui qui assure la sécurité de l'île privée de M. Bolloré sur l'île du Loc, dans l'archipel des Glénans. Il était d'ailleurs encore en 2025. C'est au travers du groupe Checkport, une société de gardiennage qui appartient à la famille Lousteau, proche de Marine Le Pen, que se fait ce contrat donc, de gardiennage. Pour ce qui est de l'autre, donc Serge Ayoub, on ne le présente plus, hein, notamment dans l'affaire qui a vu la mort du jeune Clément Méric, lui, militant antifasciste. Bon, en tout cas, pour montrer un petit peu les connexions quand même de ce collectif 9 mai auquel donc avait participé le jeune Quentin Desranques, et on ne s'étonne plus dès lors du battage médiatique qui a eu lieu et de l'énorme opportunité qu'il y a eu pour justement attaquer la France insoumise dans cette affaire, Le Pen donc, et la sphère Bolloré en fusion, avec tout l'intérêt d'acheter des grands médias. Et enfin, il est rappelé que Quentin Desranques a été membre de Academia Christiania, qui est un mouvement catholique intégriste antisémite proche du groupuscule lyonnais Sigal Trois Grammés. Sig Hill Croix Gammée, c'est le jeu de mots de leur nom. Academia fut d'ailleurs en un temps en instance de dissolution par Darmanin, mais sans suite pour la suite. Et enfin, on sait aussi que Quentin Desranques appartenait à l'Action française. Et c'est une organisation fasciste criminelle hein, qui s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué assez étrange, vu que le jeune homme était visiblement là pour prêter main forte à Némésis, et visiblement l'Action française n'apprécie pas Némésis, ils ont dit « ce groupuscule judéo-servile, et ils leur en veulent d'avoir embarqué Desranques dans sa défense, en reprochant donc à Némésis d'être au service de Bolloré et des Israéliens ». Vous voyez que tout n'est pas si net non plus dans la tête des jeunes militants d'extrême droite. Enfin, du côté judiciaire de cette affaire, selon le parquet de Lyon, qui est chargé de cette enquête pour homicide volontaire, Quentin Desranques a été frappé par au moins 6 individus. 9 suspects ont été interpellés le mardi vers 18h. À l'Assemblée, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé que la vérité judiciaire passe sans aucune pression sur les enquêteurs. Le député insoumis et cofondateur de la Jeune Garde, donc un mouvement antifasciste, Raphaël Arnaud, a lui annoncé avoir engagé une procédure pour mettre fin au contrat de son collaborateur parlementaire Jacques-Élie Favreau, qui fait partie des suspects qui ont été arrêtés et qui ont été désignés du doigt à un moment donné comme ayant fait partie de l'attaque. Bon, visiblement, il était à 500 mètres de la Rixe au moment des faits. Ce mercredi 18 février, les services de police ont été prévenus aussi d'une alerte à la bombe ciblant les locaux de la France Insoumise. Ils ont donc déployé un dispositif autour du siège du mouvement à Paris en demandant l'évacuation du siège pour assurer la sécurité des personnes. Je vous donne un petit extrait de la lettre de menace à la bombe qui a été envoyée à la police, sachant qu'il n'y avait pas de bombe placée sur place, c'était juste un coup de fil. Voici ce qu'il y a écrit. « Je viens de poser des explosifs dans vos locaux. J'ai bien fait mon travail de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver. Je vais tous vous tuer. Je vais tuer tous les crouilles. » C'est du c'est de l'argot à l'ancienne pour parler des Arabes, les gauchistes et autres nègres, tout va exploser à 13h et vous mourrez tous. Vous allez le payer au centuple pour avoir assassiné Quentin. En 2027, on va faire du sale.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Voilà, on passe à autre chose, même si tout le monde les a peut-être un peu attendus en espérant qu'ils ne se pointent pas justement à Montpellier ce mardi. C'était Mardi Gras et c'était, comme tous les ans, le carnaval des gueux. Rendez-vous 19h au Pérouf. Voici un petit extrait de ce que raconte Midi Libre, qui bizarrement pour une fois est élogieux. Satire politique et Marine Le Pen en effigie, le carnaval des gueux fidèle à la tradition dans un joyeux désordre. Entre fête populaire et satire politique, le carnaval des gueux a rassemblé plus, alors moi je dis 1000 parce qu'ils ont mis 400, mais pour y être passé un petit moment, on était plutôt proche du millier de personnes, dans les rues de l'Écusson toute la nuit, enfin jusqu'à en tout cas une heure avancée de la nuit. Mardi soir, le centre historique de Montpellier a retrouvé l'esprit frondeur et populaire du carnaval des gueux. Rendez-vous désormais bien ancré dans le paysage festif local. Un peu avant 20h, le cortège s'est élancé dans un joyeux désordre, fidèle à l'ADN de cette manifestation, sans déclaration officielle ni itinéraire imposé. C'est ce qu'on appelle un carnaval sauvage. Un millier de participants costumés ou simplement curieux ont investi les ruelles étroites de l'Écusson dans une ambiance à la fois festive, satirique et revendicative, le tout sous une pluie continue de confettis. Au rythme des fifres et des percussions, la déambulation serpente de place en place, attirant les regards amusés des habitants et des passants qui sont nombreux à se joindre spontanément au défilé. La jeunesse était d'ailleurs au rendez-vous. Comme le veut la tradition carnavalesque, la satire politique était présente puisque c'est une effigie de Marine Le Pen, désignée carrément 30 de l'année, qui a accompagné la procession sur ce char, destiné à être brûlé en fin de soirée. A noter qu'elle s'est transformée en milieu de cortège en tête de mort géante. Puis finalement, au moment où les flammes ont consumé le caramantran, s'est révélée en son cœur une croix lorraine. Donc oui, un ancrage antifasciste assez affirmé pour ce carnaval et les carnavaliers qui ont d'ailleurs entonné assez régulièrement des chants antifascistes au cours donc, de cette procession dans les rues. Dans ce contexte de tension entre groupes antifascistes et mouvances ultra-droite, les manifestants ont donc choisi la bonne humeur en affichant clairement leur positionnement. Aucune interpellation, un ou deux blessés malheureusement brûlés dans les flammes du feu de joie. Mais tout s'est bien terminé, à part quelques dégradations, des tags notamment, et des feux de poubelle qui ont été rapidement nettoyés le lendemain par les services de la municipalité.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, quelques brèves autour de l'environnement et de l'écologie. Tout d'abord, c'est Monsanto, la filiale du groupe allemand Bayer, qui a annoncé ce 17 février avoir conclu un accord pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars, ça fait environ 6 milliards d'euros, et ce pour régler des plaintes en cours ou futures aux États-Unis concernant le Roundup, cet herbicide fameux à base de glyphosate. Le glyphosate est classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer et l'OMS depuis 2015, et le Roundup est notamment soupçonné de favoriser des lymphomes non hodgkiniens. Les paiements, donc 7 des poussières milliards de dollars, pourraient être étalés sur 21 ans, ce qui devrait offrir, selon l'entreprise, une plus grande certitude financière. L'accord collectif doit encore être validé par le tribunal de Saint-Louis, dans le Missouri, et Bayer annonçait en parallèle une hausse de ses provisions pour des litiges d'environ 4 milliards d'euros supplémentaires. Depuis le rachat de Monsanto en 2018, Bayer a déjà déboursé plus de 10 milliards de dollars dans des procédures de ce type. En janvier 2026, la Cour suprême des États-Unis a d'ailleurs accepté d'examiner un recours du groupe Bayer sur la recevabilité des plaintes, avec une décision attendue d'ici fin juin. Pour ce qui est de la France, Bayer a par exemple échappé à une condamnation en juillet 2025, puisque la plainte de la famille de Théo Grataloup avait été jugée irrecevable. À la suite d'ailleurs de l'annonce de cet accord, l'action Bayer a progressé de 7,35% à la bourse de Francfort. Et puisqu'on est dans le Roundup, on continue avec du glyphosate. Celui-ci a été épandu par avion sur des champs de coca en Colombie. Ça s'est fait sous la pression des États-Unis et donc le gouvernement colombien a repris les étendages de glyphosate par les airs. Le pays a donc annoncé commencer la destruction de cultures de coca avec des drones, déclaré sur X ce vendredi 13 l'ambassade des États-Unis de Bogota. Moins de culture de coca, c'est plus de sécurité en Colombie, moins de drogues mortelles qui arrivent dans les rues américaines, s'est réjoui de son côté la représentation du gouvernement Trump. Longtemps critique à l'égard de cette pratique, le président colombien, Gustavo Petro, avait annoncé en décembre dernier la reprise de ces pulvérisations. En effet, les épandages de glyphosate par avion avaient été interdits en Colombie en 2015, en raison, vous vous en doutez, des risques pour la santé humaine et l'environnement qui est autour de ces champs de coca. Selon le gouvernement colombien, les drones doivent voler à une altitude maximum de 1,5 mètre au-dessus des plants de coca afin d'éviter que le produit chimique n'affecte les populations riveraines ou les écosystèmes.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'en avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Le progrès, il ne va pas dans le sens des loups. En effet, les éleveurs seront bientôt autorisés à abattre des loups, même si les troupeaux ne sont pas protégés. Le message est clair, hein, la protection n'est pas une solution, il faut prélever des loups. Quand on parle de prélever, dans le terme de la chasse, ça veut dire tuer. En déplacement dans la Haute-Marne, c'était les mots de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ce 16 février, en présentant donc de nouvelles mesures qui viennent fragiliser un peu plus encore la préservation des loups en France. Bientôt, les éleveurs auront donc l'autorisation d'abattre un loup qui a attaqué leur troupeau, y compris quand il n'y a aucune protection autour du troupeau. La brigade mobile d'intervention contre les grands prédateurs et les louvetiers pourront eux aussi intervenir sans ce préalable de protection qui était jusqu'ici en vigueur. À en croire la ministre, il s'agit là des autorisations les plus poussées qu'il soit. Si nous voulons aller plus loin, dit-elle, il faudra en passer par la loi. Accompagnant Annie Genevard, le ministre délégué à la transition écologique Mathieu Lefèvre, lui aussi a jeté le loup en pâture. « Nous devons agir concrètement et avec pragmatisme, dit-il, loin de l'écologie dogmatique. Le statu quo face à de telles prédations n'est plus possible. La pression sur les éleveurs est devenue insupportable. » Problème, donc, ces loups pour l'élevage, alors que le nombre de loups en France stagne depuis des années, de façon inquiétante autour de 1100 individus, et qu'il est désormais démontré que les mesures de protection des troupeaux réduisent drastiquement les pertes, eh bien le gouvernement profite du déclassement de cette espèce au niveau européen pour s'engouffrer dans une politique de tir de plus en plus destructrice, irrationnelle et très dangereuse pour la conservation de l'espèce. Ça, ce sont les mots de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS, qui, vous vous en doutez, n'a pas accueilli la nouvelle avec un grand enthousiasme.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et on termine avec de l'argent. Une note de Bercy vient de le confirmer. En France, plusieurs milliers de millionnaires ne payent aucun impôt sur le revenu. Et c'est exactement le contraire de ce qu'affirmait Amélie de Montchalin au mois de janvier. Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dénonce une rétention d'informations de la part de Bercy. C'est donc un sacré pavé dans la mare que vient de lancer le ministère de l'économie. Dans une note transmise par l'administration aux sénateurs Claude Raynal, un socialiste, et Jean-François Husson, DLR, qui sont donc président et rapporteur général de cette commission des finances du Sénat, les fonctionnaires viennent de confirmer que les très riches ne payaient pas d'impôts. Plus précisément, d'après des chiffres qui ont notamment été diffusés par Le Monde, ce sont 13 335 contribuables qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous savez, l'IFI, qui est venu remplacer l'impôt sur la fortune. Eh bien, ces 13 335 contribuables se débrouillent chaque année pour ne payer aucun impôt sur le revenu. Ce sont des gens principalement dont le patrimoine immobilier a atteint au moins 1,3 million d'euros. C'est donc un camouflet pour l'exécutif qui jusqu'ici avait balayé cette possibilité et notamment en utilisant cet argument pour refuser la taxe Zucman. Un détail qui a son importance, hein, cette histoire de patrimoine immobilier, parce que c'est uniquement là-dessus que Bercy s'est appuyé. Et on sait, grâce notamment aux travaux du fameux économiste Gabriel Zucman, que les ultra-riches, donc les milliardaires, possèdent avant tout du patrimoine financier des actions d'entreprise. Et si on incluait donc le reste du patrimoine financier en plus du patrimoine immobilier avec des actions, le phénomène, dit-il, serait encore plus marqué. Si les sénateurs se sont donc concentrés sur les ménages riches en immobilier, qui sont assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien c'est justement que Bercy avance à l'aveugle sur la question des patrimoines financiers. En effet, l'administration fiscale ne dispose pas de données fiables sur ce patrimoine total des foyers fiscaux. dont par exemple sa composante mobilière, hein, tout ce qui est actif, etc. Et ce, eh bien, depuis la fin justement de l'ISF, qui avait été acté par Emmanuel Macron en 2018. Donc ils ne payent plus d'impôts, mais surtout on n'a plus les chiffres de ce qu'ils ont. Alors, comment expliquer qu'autant de riches échappent à cet impôt sur le revenu ? Bon, on sait plus ou moins comment ça se passe, hein, mais la commission des finances du Sénat estime dans sa note que le phénomène pourrait s'expliquer par des comportements d'optimisation fiscale, voire de fraude. Plus précisément d'ailleurs, par un recours trop systématique de chefs d'entreprise ou autres professions libérales à des holdings patrimoniales qui vont ensuite héberger leurs revenus, donc les dividendes, des plus-values, des gains de management, package, etc. Et surtout pas de salaire, donc, qui leur permet de passer entre les grilles.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Eh ben oui, c'est comme ça, visiblement, que le monde tourne pour l'instant. Allez, on se quitte là-dessus. Je vous donne rendez-vous d'ici 3 petites semaines. Je vais prendre des congés. Puis d'ici là, bah, si vous voulez continuer d'avoir de l'info un petit peu alternative, n'hésitez pas à faire des petites recherches, notamment sur la toile en ligne. On trouve quand même encore pas mal de médias indépendants qui vous proposent un autre regard sur l'actualité. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. On se retrouve donc en mars.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.